Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
I just sometimes wish like they could like look into my brain and see how I really felt about her. And no matter what else someone would say, they would see, man, this guy had no ill will towards it. Whatever the motivation is to kill someone, I had absolutely, it didn't exist in me.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En janvier 1999, un crime sordide va secouer toute la municipalité de Baltimore dans le Maryland.
La jeune Aimeen Lee, âgée de 18 ans, au futur très prometteur, est retrouvée morte, assassinée
et enterrée dans un parc.
Les soupçons se tournent vers son ex-copain, Anan Syed, qui est rapidement accusé suite au témoignage d'un de ses amis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
15 ans plus tard, le podcast Serial va connaître un immense succès et va remettre dans l'actualité ce procès controversé. Est-ce qu'un podcast pourrait remettre en doute
la décision du jury?
Suivez-nous dans ce périple complexe qui nous amène aux frontières du doute raisonnable. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien, on enregistre toujours à distance en cette situation de confinement, mais on essaie de s'améliorer, là, on essaie d'autres solutions pour avoir un meilleur son. Mais sinon, on a encore un cas vraiment stimulant pour ce soir, un lourd cas avec énormément d'informations, puis on a bien hâte de vous en parler. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit ce soir?
Ce soir, mon cher Émile, on boit la IPA américaine, 7e anniversaire de la microbrasserie L'Ermite, qui est une de nos brasseries préférées, qui est située à Victoriaville. La bière a des houblons Sabro et Citra. Elle est bien juteuse avec un bon 7 % d'alcool. Elle a aussi la canette magnifique design.
Oui, bon 7e anniversaire à L'Ermite. Cette bière-là nous est offerte par Gwen, qui nous a offert cette bière via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez encourager le show, vous pouvez nous suggérer une bière et nous faire un don via le distorsionpodcast.com. Sur l'onglet tournée de bière. Donc, merci à toi, Gwen.
On a aussi un shout-out pour une review 5 étoiles qui nous provient de Apple Podcast, qui nous vient de Mademoiselle Rouge du Canada, qui nous dit « Podcast de feu. Je rafale depuis quelques semaines. J'adore. Et vous m'empêchez de penser à la pandémie. Étonnamment, malgré les histoires intenses, vous calmez mon anxiété. Merci, guys. »
Oh, yes.
Merci à toi, Mademoiselle Rouge.
Tant mieux si on calme l'anxiété et qu'on vous en donne pas supplémentaire.
Oui, effectivement.
Je voulais en profiter aussi pour remercier. On a beaucoup de nouveaux distordus qui se joignent à nous.
Oui.
Ces temps-ci, depuis la pandémie, hein, le podcast en général est devenu un loisir encore plus utilisé par les gens, plus exploré par les gens. Puis on sent qu'on a beaucoup de nouveaux distordus. Donc, bienvenue dans notre monde bien à nous.
Oh oui. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé de discussion sur Facebook si vous voulez aller un peu plus loin dans les recherches et aller un peu plus loin dans différentes histoires. On veut remercier aussi nos membres Patreon qui sont toujours très actifs. On est désolé, hein, on a pris une petite pause, donc là on revient en force. Il reste quelques épisodes à la saison. Là, au moment où on se parle, il en reste 4, je crois, et on devrait terminer là quelque part en juin. Donc merci d'être avec nous jusqu'au bout. Et pour les membres forfait Oui Monsieur sur Patreon, vous allez avoir un after show de cet épisode-ci où on va discuter un petit peu plus en détail du cas de Adnan Syed et de Serial. Donc ça risque d'être très intéressant. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans cette histoire passionnante?
Oui, mais juste avant, nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. C'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, comme pour les 30 autres programmes offerts.
Absolument. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête là, de A à Z.
Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante ou même réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple celui de la criminologie, ou même encore réorienter votre carrière.
Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes?
Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense un peu à tous les jours.
Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la Faculté d'éducation permanente, au fep.umontréal.ca, le fep.umontréal.ca. Et là-dessus, Seb, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire d'Adnan Syed et du phénomène Serial?
Oui, monsieur!
C'est parti!
Yeah!
Tout d'abord, Seb, je suis très content qu'on aborde ce cas parce que j'ai été un gros fan de Serial. Sans Serial, probablement qu'il n'y aurait pas eu de distorsion. C'est un peu le podcast qui a vraiment été la bougie d'allumage pour tout ce qui est true crime et enquête. C'est un podcast qui date de 2014 et qui a couvert cette histoire-là là, en long et en large. Toi, à la base, est-ce que t'avais été un fan de Serial?
Oui, ben en fait, je l'ai été un peu plus sur le tard. Ben c'est toi qui m'as introduit à ce podcast-là, puis je m'en souviens encore. Puis au départ, on dirait que je l'écoutais pas. Puis là, plus tu m'en parlais parce que tu avançais toi-même dans l'histoire, là, plus moi-même je suis embarqué par la suite. Et c'est un cas qui m'a quand même me troublé un certain temps. Puis j'avais un peu mis ça de côté dans ma tête, mais le fait qu'on retravaille dessus, j'ai recreusé le cas pour l'épisode d'aujourd'hui, mais là, ça m'a remis dans toutes les émotions que j'avais à ce moment-là, la première fois que j'ai découvert Serial et le cas de Adnan Syed.
Oui, carrément, parce que c'est une histoire qui peut paraître simple. Hein? C'est-à-dire que une jeune fille est retrouvée morte, on accuse le petit copain qui aurait un mobile dont l'emploi du temps est difficilement vérifiable. Donc, ça fait en sorte que c'est une histoire qui peut être réglée assez rapidement si on veut. Par contre, on se rend compte en écoutant Serial puis en écoutant d'autres documentaires et en lisant d'autres articles qui ont été faits sur le cas que c'est pas si simple en fait. Parce que justement, on va le voir, la cause du procureur, le dossier du procureur tient sur environ un seul témoignage qui est très contestable. Et malgré tout, eh bien, Adnan a été mis en prison pour ce crime-là. Et par la suite, ben justement, Serial et même d'autres podcasts comme Undisclosed ou même une série HBO qui a été faite tentent justement de lever le voile sur certaines preuves qui ont soit pas été amenées au procès ou encore qui sont très contestables. Donc, c'est une histoire qui paraît simple au départ, mais qui est extrêmement complexe lorsqu'on se plonge dedans. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, Seb, mais moi, je suis extrêmement fan des histoires qui ont des timelines, des chronologies très courtes. Puis celle-là, vous allez voir, l'histoire d'Adnan Syed et du meurtre de Eamon Lee, c'est vraiment un cas de chronologie. Donc, vraiment, chaque minute est importante. On va tenter de faire notre possible pour vous guider au fil de cette journée-là, là, du fameux 13 janvier 1999, et vous présenter les différentes versions. Mais tout ça, là, on se rappelle du cas de Maura Murray, où sa disparition serait survenue dans un horizon d'environ 15 minutes. Ben, le cas d'Adnan Syed, c'est presque pareil. Eamon Lee aurait été tué dans une fenêtre d'une vingtaine de minutes. Donc,
exact.
Encore une fois, chaque minute est importante. importante et les souvenirs des gens sont très importants. Donc, dans cette histoire-ci, on parle d'étudiants du secondaire, donc d'étudiants du lycée qui ont, entre grosso modo, là, qui ont 17-18 ans environ. Et puis là, on est constamment en train de leur demander de redécrire cette journée-là. Et en fait, souvent, on retourne dans le passé. À un certain moment donné, on leur demande après 6 semaines, ouais, décrivez-nous en détail votre journée du 13 janvier 1999. Et même avec Serial et tout ça, c'est 15 ans plus tard qu'on leur demande encore une fois redécrire cette journée-là. Mais on se rappelle, en fait, on se rappelle pas toujours. C'est très difficile de se souvenir précisément des éléments d'une journée. Moi, j'essaye de me rappeler ce que j'ai fait samedi soir dernier, puis j'ai de la difficulté. Là, donc, imaginez lorsqu'on remonte 6 semaines ou même 15 ans plus tard.
Bon, oui, exact. Mais même si c'était une journée marquante pour ces gens-là, reste qu'il y a des petits détails que notre cerveau, il a pas le choix de faire le ménage aussi, tu sais, et ne pas s'en souvenir. C'est pas évident parce que c'est vrai ce que tu dis. On se souvient rarement de ce qu'on a fait la veille ou même la semaine avant parce que c'est de la routine ou c'est rien qui était vraiment marquant pour nous. Donc, notre mémoire, automatiquement, elle enregistre pas ça. Ça devait être vraiment une épreuve pour ces gens-là assez difficile, je trouve, là, de se remémorer. Puis tu veux pas raconter de mensonges ou dire quelque chose qui pourrait peut-être incriminer encore plus la personne ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez délicat aussi, même pour les étudiants qui ont pu témoigner.
Oui, exact. Et là, vous allez voir, nous, on fait un épisode d'une heure et quart peut-être sur ce dossier-là. Donc, il y a certains, s'il y a des cracks de Serial dans la salle, là, des geeks de Serial, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, dans si peu de temps, on va pas passer au travers de toutes les preuves, de tous les détails, là, de toutes les correspondances ou de tous les signaux de tours cellulaires ou ces choses-là. Mais on vous invite à prendre part à la discussion. Si vous avez des opinions, des hypothèses sur le dossier, partagez-les avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter par la suite. On va enregistrer un after show après pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon. Et on va discuter un peu plus en détail de tout ça et aussi de la série qui est sortie sur HBO en 2019. Donc, ça risque d'être très intéressant. Là-dessus, Seb, je me lance. Nous sommes le 13 janvier 1999 dans la ville de Baltimore, dans l'état du Maryland aux États-Unis. La jeune Aimin Lee, âgée de 18 ans, étudiante finissante de la Woodlawn High School, ne se présente pas au service de garde où elle doit aller chercher sa jeune cousine en voiture après l'école vers 15h15. Il est très inhabituel pour Hay de ne pas remplir ses responsabilités, surtout en ce qui a trait à ses responsabilités familiales. Vers 15h30, la professeure de sa cousine contacte la famille de Hay en rapportant la situation et en demandant à la famille de venir la chercher. Le frère de Hay, qui se prénomme Young, répond au téléphone et contacte aussitôt ses parents, mais aussi l'école de Woodlawn et sa meilleure amie Aisha, la meilleure amie de Hay. Celle-ci commence d'ailleurs à contacter le pager de Aimin Lee, car rappelons-nous, nous sommes en 1999, donc le pager était de mise, il y avait très peu de téléphones cellulaires à cette époque-là. Et pour le bénéfice de nos auditeurs milléniaux de la génération Z, un pager, c'est une petite boîte de plastique qu'on contacte avec un téléphone et ça indique le numéro d'où on a appelé. Donc la personne qui a le pager peut rappeler à ce numéro-là, mais ça lui prend un autre téléphone, évidemment.
Oui, exact. Et à cette époque-là, c'était beaucoup associé dans les débuts des pagettes aussi qu'on appelait ça, c'était beaucoup associé aux gens qui vendaient de la drogue. Je sais pas si tu te souviens, on avait un genre de biais. Automatiquement, quand on voyait quelqu'un qui avait un pager, on dirait qu'on se disait, ah, il doit vendre de la drogue.
Oui, maintenant, c'est soit un médecin ou un dealer, quelqu'un qui a un pager.
Exact. Oui, exact, parce que ça existe encore. Là.
Ben oui. Toutefois, aucune réponse ne lui est retournée lorsqu'elle appelle le pager de Hay. Aimin Lee est une étudiante sportive là, très impliquée dans la vie scolaire et elle doit marquer les points là, d'un match de lutte là, ce soir-là. Elle ne se présente pas non plus à ce match de lutte. Après plusieurs tentatives de rejoindre Hay, la famille contacte alors la police qui ne tarde pas à débarquer dans la demeure des Lee pour constater la disparition. Plusieurs étudiants ont aperçu Hay ce jour-là. Elle a assisté à ses cours et a connu une journée scolaire là, bien normale comme à l'habitude. Selon certains témoins, elle a été aperçue vers la fin de la journée scolaire dans les marches de l'école Woodlawn portant une longue jupe foncée et un chandail à capuchon, mais aussi un hoodie blanc. Elle semblait pressée selon certains amis. Elle comptait aller chercher sa cousine au service de garde et rejoindre son petit copain Don plus tard. Elle était d'ailleurs très excitée d'aller rencontrer Don. Pour aider la police, le frère de Hay, Young, fouille dans son journal intime et contacte le premier numéro de téléphone qu'il aperçoit. Il croit rejoindre justement son petit copain Don Kleindienst, mais c'est plutôt son ex-copain Adnan Syed qui est au bout du fil. Les policiers interrogent donc cet Adnan qui dit avoir aperçu Hay à l'école ce jour-là comme à l'habitude et que celle-ci devait lui faire un lift en voiture après l'école, donc elle devait l'amener en voiture jusqu'à chez lui, chose qu'elle n'a pas fait. Les policiers contactent son copain actuel, Don, dans les environs de 1h30 cette nuit-là, et celui-ci affirme ne pas avoir eu de nouvelles de Hay pendant cette journée, ce qui est quand même assez étrange. La nuit passe, et le lendemain matin, le 14 janvier, toujours aucune nouvelle de Hay Minley. Mais Seb, est-ce que tu peux nous en dire plus là, sur cette Hay Minley, là, qui elle est exactement et d'où elle vient?
Absolument. Hay Minley est née le 15 octobre 1980 en Corée du Sud. En 1992, à l'âge de 12 ans, elle émigre aux États-Unis avec sa mère et son frère, dont on vous a parlé un peu plus tôt, pour vivre dans la ville de Baltimore. Le père de Hay était contre l'idée de déménager aux États-Unis et va donc demeurer en Corée et coupera presque tous les liens avec sa famille. Ça, je trouve ça quand même triste. Ce que vous devez savoir à propos de Baltimore, c'est que c'est une des villes avec le plus haut taux de crimes et de meurtres dans tous les États-Unis. Et en 2019, par exemple, la ville a souffert de 348 homicides pour une population d'environ 600 000 habitants, ce qui est quand même énorme, là.
Oui.
À titre comparatif, là, Montréal, qui compte 1,8 million d'habitants, ce qui est à dire trois fois plus que Baltimore, n'a seulement connu que 8 meurtres dans la même année. Donc, Baltimore, encore aujourd'hui, est dans le top 3 des villes les plus meurtrières des États-Unis.
Hey, c'est plus qu'un meurtre par jour. Mais en fait, c'est presque un meurtre par jour.
Ben oui, c'est vrai.
Ce qui est quand même assez intense pour un service de police de tenter de résoudre autant de meurtres dans une année. C'est colossal comme tâche.
Ah non, effectivement, c'est assez incroyable. Hein? Vers la fin des années 90, Hay rejoint l'école secondaire de Woodlawn, où elle rencontrera la plupart de ses meilleurs amis, incluant Annan. Hay est vraiment une élève modèle. Elle cumule les bonnes notes et les professeurs, autant que les étudiants, l'aiment vraiment beaucoup. En plus de ça, c'est une grande sportive qui est très impliquée dans le sport et les activités parascolaires. Elle joue par exemple à la crosse et aussi au hockey sur gazon. En plus de ça, comme on vous l'a dit plus tôt, elle est coach de lutte, là, mais le type de lutte qu'on appelle le catch, là, qui est plus de la lutte, disons, professionnelle, là, qui mélange du divertissement. Là. C'est comme un mélange sportif et théâtral, là, si on veut.
Elle est coach de pas cette lutte-là. Là. Elle est coach vraiment de lutte un peu, lutte olympique, là, tu sais.
Où on fait des points et tout ça. Vraiment sportive, là.
Oui, c'est ça.
En plus d'étudier à l'école secondaire de Woodlawn, et travaille chez Lance Crafter, qui est un fabricant de lentilles et un détaillant de soins optiques qui est établi à peu près partout dans le monde. En plus d'aimer son travail, elle souhaite un jour développer une carrière en tant qu'optométriste. C'est à l'école de Woodlawn que Hay fait la rencontre de Annan Syed, un autre étudiant de son année. Il est lui aussi très populaire auprès des autres élèves. Il est aussi sportif, il fait entre autres de l'athlétisme. Les deux vont connaître une belle relation romantique. On en apprend surtout sur leur relation en lisant le journal intime de Hay, qui est entièrement disponible en ligne là, via la cour d'appel de l'État du Maryland. En fait, c'est des documents qui sont disponibles actuellement.
Oui.
Ça, je sais pas si c'est tout le temps étrange, hein, de rentrer dans l'intimité de quelqu'un comme ça. On dirait que ça me met toujours mal à l'aise, même si ça a été quand même utile, entre guillemets, dans ce cas-là. Là.
Oui, c'est vrai que moi aussi, ça me rend mal à l'aise. Écoutez, je l'ai presque tout lu, en fait, ce journal intime-là, parce qu'environ toute la chronologie des événements avant la disparition de Hay sont seulement explicables avec ce journal intime-là. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'elle vivait, ses sentiments, est-ce que ça se passait bien avec Annan, avec Don, justement, sa rencontre avec Don, comment ça se passe avec ses professeurs, tout ça. On a vraiment l'impression un peu de rentrer dans son jardin secret, donc je me sentais pas très bien parfois, puis c'est quelqu'un qui écrivait très bien, qui faisait aussi beaucoup de petits dessins dans son cahier, donc en même temps, il y a une certaine tristesse à lire tout ça après les faits, mais c'est grâce à ce journal-là qu'on a pu en connaître un petit peu plus sur ce qui s'est déroulé avant sa disparition.
Oui, exact, mais même dans le documentaire de HBO, ils en font souvent la narration, et c'est très très bien fait.
Mm-hmm.
Bref, je referme la parenthèse. Dans ce journal-là, Hay raconte ses états d'âme, comme tu nous disais, et parle de ses activités avec son groupe d'amis, groupe qui deviendra primordial dans l'enquête qui va suivre. Dans un texte qui date du 28 avril 1998, Hay, elle explique à quel point elle tombe amoureuse d'Annan. Lors de leur bal étudiant de cette année-là, Annan a été élu prince du bal. Bien qu'il accompagnait Hay, c'est une de leurs amies, Stéphanie, qui a été élue la princesse. Au départ, Hay est un peu contrarié car Annan doit danser avec Stéphanie parce que c'est la tradition. Et en plus, la chanson qui mène la danse est All My Life de Casey and JoJo. Je sais pas si vous vous souvenez, les Distordus, là, mais c'est les plus, peut-être les plus vieux Distordus, là, mais c'est Casey and JoJo, ça jouait énormément dans ces années-là. Là. C'était ces deux frères qui faisaient du R&B, là, pour ceux qui peuvent l'ignorer. Bref, c'était la chanson de et je peux la comprendre, là, qu'elle sentait une certaine frustration de ne pas pouvoir danser avec son copain. Par contre, après quelques secondes, en bon gentleman, Annan a délaissé sa princesse Stéphanie pour revenir vers son amoureuse et danser avec elle. Cette dernière est touchée par ce geste, les deux vont s'embrasser sur les lèvres. Va décrire dans son journal comment ne pas tomber en amour avec Annan. Plus tard, elle écrit « Je l'aime à mort ». Dans un autre texte, encore une fois de son journal, elle explique à quel point il est romantique et qu'il a acheté une rose pour E et qu'il lui a remise même dans le cours de physique en face de toute la classe. Il faut quand même du courage là, à cet âge-là de faire ça.
Oui.
Donc, le cœur de E est conquis, puis on la comprend.
Tout à fait. Toutefois, les deux vont vivre une relation là, un peu du style Roméo et Juliette, car Annan est musulman et ce type de relation, là, surtout avant le mariage, n'est pas très bien reçu par la communauté. Et vous allez voir, ça prend une grande place dans sa vie, là, sa religion. Ils vont donc cacher leur relation. Du côté de He, le sujet est aussi un peu tabou dans sa famille, donc leur relation demeure assez mystérieuse. Ils doivent se voir un peu en cachette. Celle-ci, d'ailleurs, n'a que très peu d'intimité, là, He, dans sa maison, puisqu'elle habite avec plusieurs membres de sa famille. Non seulement sa mère, son frère, mais aussi des cousins, des cousines, une tante, donc sont très nombreux dans cette petite maison là, de Baltimore. Ils vont donc devoir trouver des astuces pour se voir. Ils vont aller ensemble en voiture dans le parking du Burger King, par exemple, pour s'embrasser, ou encore dans le parking de Best Buy, où apparemment ils auraient eu des relations plus intimes. Évidemment, Annan va cacher tout cela à sa famille, qui n'en sait rien. Vers la mi-mai 1998, Annan et He prennent une pause dans leur relation. Hey est un peu irrité par l'importance de la religion d'Annan dans sa vie et à quel point toute sa vie est réglée par l'islam. Toutefois, depuis quelque temps, Annan fait preuve de beaucoup là, de laisser-aller face à sa religion. C'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête, il fréquente Hey même si c'est interdit, il consomme du cannabis là, quand même à tous les jours, puis il cache plusieurs choses à sa famille. Donc, il respecte pas toujours les règles qu'il devrait faire. Tout ça dans le but de vivre une vie d'adolescent américain normal, mais en même temps, il veut pas décevoir sa famille, donc il va faire tout ça, mais il va être toujours à temps pour la dernière prière du soir, par exemple. Il va se rendre à la mosquée, rencontrer ses parents, les membres de la communauté, tout ça, mais en dehors de ça, il va faire plusieurs choses qui sont soi-disant interdites par sa religion. Donc, c'est là qu'il va avoir vraiment une dualité qui va s'installer de ce côté-là chez Annan. Par contre, le vrai problème, c'est vraiment la perception de ses parents plus que la religion elle-même. Ceci dit, Annan digère mal cette opposition entre He et l'islam et propose une pause à He qui accepte à contre-cœur sans trop comprendre le véritable problème. Faut pas oublier que ces deux-là, He et Annan, c'est comme un peu le couple populaire de l'école. T'sais. L'école secondaire de Woodlawn, c'est une école qui est populaire dans le sens où ça attire une communauté qui est très, très mixte, très variée. Baltimore, c'est une ville qui est une communauté multiculturelle très forte. Par contre, et Annan, ils sont dans un programme qu'on appelle le programme Magnet, qui est comme un programme à l'école de Woodlawn qui est un petit peu plus avancé. Donc, les élèves ont plus de cours créatifs, ils vont avoir des cours un petit peu plus avancés parfois qui vont même rappeler l'université, ils vont être encouragés beaucoup à faire du sport, des choses comme ça. Annan, tu l'as dit tout à l'heure, il fait de l'athlétisme, mais c'est aussi une star de l'équipe de football de l'école. Oui. Donc, c'est un peu les deux sont très populaires. Donc, c'est vraiment un couple hyper populaire. Donc, quand ils vont prendre une pause, justement, ça va un peu irriter leurs amis. Mais en fait, ils vont rien comprendre de ce qui se passe parce que c'était un peu le petit couple parfait. Mais comme bien des relations, la relation va reprendre. Parfois, ils vont arrêter. Mais bon, le couple va connaître des hauts et des bas. Si bien qu'en novembre 1998, ils se séparent définitivement. Il n'est pas clair s'ils se fréquentent encore. Mais selon le journal intime de Hay, elle écrit le 3 novembre qu'elle a le cœur brisé. Toutefois, à la mi-décembre, elle écrit qu'elle semble encore éprouver des sentiments envers Annan. Elle écrit d'ailleurs un autre détail important, « Ma tête est ailleurs auprès d'un autre garçon, Don. » Au cours de l'année, elle va rencontrer ce fameux Don chez Lance Crafter où elle travaille. Ils vont débuter une relation tranquillement. Et selon les dires de son groupe d'amis, Annan va lui aussi fréquenter d'autres filles là, à l'insu de ses parents après sa séparation avec Hay. Donc, ça semble aller bon train entre les deux qui ont chacun chacun rencontrer des gens différents, chacun de leur côté. Le 23 décembre, tout près de Noël, Hay va subir un accident de voiture mineur qui ne la blessera pas. Mais sur le coup, elle va appeler Annan pour qu'il vienne l'aider. Les deux semblent être dans une belle relation amicale, comme ça, ils s'aident aux besoins. Et à ce moment-là, c'est là que Annan va rencontrer Dawn sur les lieux de l'accident. Annan va même s'adresser à Dawn d'une manière très sympathique, un peu humoristique, en affirmant qu'il voulait s'assurer qu'il était un bon gars. Donc, il était content de le rencontrer pour s'assurer que Hay soit avec une bonne personne. Au début 1999, maintenant, Hay et Dawn sont officiellement en couple, et malgré qu'il n'y ait pas d'animosité entre eux, elle va voir Annan beaucoup moins en tant qu'ami. Détail important, Dawn est âgée de 22 ans, alors que Hay, lorsqu'ils se sont rencontrés, était âgée de 18 ans. Donc, c'est 4 ans de plus que Hay au moment des faits. À cet âge-là, vous allez me dire, 4 ans, il n'y a rien là dans la vraie vie, mais à cet âge-là, vers la fin de l'adolescence, ça paraît quand même, un écart de 4 ans, c'est quand même un peu important.
Oui, oui, oui.
À l'époque, les amis de Hay le trouvent trop vieux pour elle. Tu sais, lui, il a son emploi, il va plus à l'école, il a sa voiture, tout ça. Mais malgré cela, elle va continuer de le fréquenter et d'en parler avec passion dans son journal. Elle va d'ailleurs écrire un gigantesque « Dawn », le mot « Dawn » dans son journal, écrit avec des minuscules petits « Dawn ». Toutefois, en haut de cette page avec les multiples « Dawn », c'est là qu'on retrouve un numéro de téléphone d'inscrit et c'est le numéro que compose son frère lorsqu'il tentera de la retrouver et le jour de sa disparition, le 13 janvier 1999. Et rappelons-nous, ce numéro n'est pas celui de Dawn malgré qu'il ait le mot « Dawn » écrit partout comme on le croirait, mais c'est bien le numéro de cellulaire d'Annan qui vient juste d'avoir ce téléphone-là. Et là, nous revenons à notre histoire.
Il faut se rappeler, Émile, qu'en 1999, c'est pas tout le monde qui avait accès au téléphone cellulaire, un peu comme on le disait plus tôt. La plupart des jeunes de cette époque-là, dont Émile Lee et leurs amis, avaient des pagers. Annan était donc un des rares ados de son groupe d'amis qui en possédait un. Quelques jours après la disparition de Hay, il y avait une soirée d'anniversaire organisée par une de leurs amies, Krista, qui célébrait ses 18 ans. Tous espéraient que Hay se présente, car tous ses amis y étaient, incluant Annan. Hélas, elle ne se rendit jamais à la soirée. Les jeunes se rappelleront toujours de cette soirée comme quoi il y régnait une atmosphère étrange. Une tempête de neige a aussi paralysé Baltimore à ce moment-là au cours des derniers jours, ce qui rendait les recherches pour retrouver Hay encore plus complexes.
C'est particulier aussi, ces jeunes-là faisaient la fête, mais une de leurs amies était disparue, donc ils devaient avoir de la difficulté justement à se mettre dans l'ambiance, et puis nul besoin de vous dire que le sujet de la soirée était la disparition de Hay, même si c'était l'anniversaire de Krista.
Ah oui, 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 je me mets à leur place, là, et c'est sûr que c'est le sujet principal. Puis, mais en même temps, même, je trouvais quasiment ça étrange qu'ils fassent la fête quand même, quand ton ami a disparu, mais la vie continue, hein, fait que c'est, des fois, c'est, faut pas trop tenter de juger ça, là.
Mais je pense en même temps que, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, puis comme tu disais, c'est pas tout le monde qui avait des téléphones, donc l'omni-connectivité. Le fait d'être toujours en contact, là, de dire « Hey, Seb a passé une story il y a 2 minutes, mais il n'est pas à la soirée, c'est louche. » Eh bien, à cette époque-là, c'était différent quand même. Tu pouvais être quand même quelques jours sans avoir des nouvelles de quelqu'un.
C'est vrai ce que tu dis. Hein. Des fois, on oublie qu'on a vécu cette époque-là. Les semaines passent et toujours aucune nouvelle de Hay. Le 6 février, les policiers organisent une fouille avec des chiens renifleurs dans les environs de Baltimore, mais ne trouvent rien. Le 9 février, un employé de maintenance d'une école des environs, appelons-le Mr. S, s'arrête sur le bord de la route quelques minutes pour aller se vider la vessie. Il s'arrête près d'un gigantesque parc de Baltimore que l'on appelle Leaking Park. Alors qu'il se soulage dans un boisé, il aperçoit ce qu'il croit être un pied humain qui fait surface derrière une souche d'arbre. Il contacte les autorités qui arrivent rapidement sur les lieux. Les détectives Ritz et McGillivray, je pense, sont mis sur le coup. Il note tout de suite que l'endroit où il s'est garé, sur le bord de la route, près de gros morceaux de béton qui délimitent un parking non officiel du parc. Par contre, l'endroit où il a trouvé le corps est assez loin de la route. On parle de plus de 100 pieds. Mr. S, notre homme, aurait donc choisi minutieusement l'endroit qu'il a choisi pour se soulager, en marchant assez loin dans le boisé. Il constate un corps féminin étendu dans une tombe de fortune, très peu profonde, ne présentant pas clairement des signes de trauma sur le cou. Elle sera identifiée comme étant Amy Lee, qu'il recherchait depuis déjà quelques semaines. Mais que sait-on sur ce fameux Mr. S? Car c'est quand même louche qu'il se soit retrouvé loin à ce point dans le parc pour aller uriner. Donc, les enquêteurs n'ont pas le choix de le considérer comme un suspect.
Oui, c'est clair, parce que ce Leakin Park-là, c'est un peu un grand parc, là, comme le parc La Fontaine à Montréal ou même un peu Central Park à New York. À certains endroits, c'est de la forêt. Là. C'est pas un parc où il y a toujours des attractions ou des choses comme ça. Exact. Et puis, c'est même, les gens de Baltimore vont même le surnommer un peu le cimetière de Baltimore, parce qu'il y a plusieurs corps qui ont été enterrés là dans le passé. Là. Chaque année, ils trouvent plein de corps dans ce parc-là. Donc, lui, c'est quand même drôle que Mr. S s'arrête sur le bord d'un boisé, puis on va y revenir un petit peu plus tard, mais il s'arrête sur le bord de Leakin Park, un peu au hasard comme ça sur la route, et il plonge dans la forêt, marche environ 120 pieds là, pour aller uriner dans les buissons, et tombe systématiquement sur le corps de Eamon Lee. C'est quand même assez spécial comme découverte.
Oh oui, c'est un peu louche, mais tu sais, c'est peut-être un endroit pour uriner parce que ça s'appelle Leakin Park.
Oui, ça, c'est un peu un double jeu de mots là-dedans, c'est sûr.
Ajoutons à cela le fait qu'il était seulement à environ 2 km de chez lui lorsqu'il s'est arrêté. Donc, tu sais, on s'entend, il aurait pu bien continuer et se rendre chez lui, là, une envie de vessie, t'es capable d'endurer ça quand même 2 km de plus. Au contraire, il s'est arrêté en voiture, a traversé la rue, il s'est garé du côté opposé de la route d'où était situé le corps de la victime et a franchi, comme tu le disais, 127 pieds pour aller uriner dans les buissons. C'est un peu étrange tout ça. Il se trouve que notre Mr. S a un long dossier criminel. On a consulté son dossier à l'État du Maryland et il a été condamné pour atteinte à la pudeur, intrusion, atteinte à l'ordre public et plusieurs autres cas similaires. On a trouvé 7 dossiers conclus et un encore en cours actuellement. Une de ces accusations d'atteinte à la pudeur date de 2015, donc il ne s'agit pas d'un enfant de cœur. Malgré tout ça, les enquêteurs vont l'écarter peu à peu de la liste des suspects potentiels.
Oui, apparemment que c'est quelqu'un qui aimait bien dévoiler ses parties intimes en public.
Ouais.
Le 12 février 1999 maintenant, l'enquête connaît un coup de théâtre. Les enquêteurs de la police de Baltimore reçoivent un appel anonyme d'un homme leur disant « Vous devriez vous concentrer sur le petit copain. » Ce à quoi les policiers vont répondre « Don » dans le sens que le petit copain de Hayes c'était Don au moment des faits. Et il va leur répondre « Non, Adnan Syed. » Et là, les enquêteurs vont donc concentrer leurs efforts sur Adnan, sans toutefois y aller avec tambour et trompette. Ils vont obtenir un subpoena 6 jours plus tard pour obtenir le relevé téléphonique du téléphone cellulaire d'Adnan. Et ils vont remarquer qu'un numéro revient très souvent, celui d'une certaine Jennifer Pusateri, et c'est par elle qu'ils vont commencer à définir la chronologie des événements qui se sont déroulés le 13 janvier dernier. Et vous allez voir, ce ne sera pas une mince affaire. Tout d'abord, parce qu'on oublie souvent les choses là, très rapidement, comme on en a discuté en introduction, et je ne sais pas pourquoi, mais quand on est ado, on dirait que c'est encore plus flou ces informations-là. Donc vraiment, les policiers vont cuisiner le groupe d'amis de Adnan et Hay pour tenter de voir qui a aperçu qui et qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée-là, parce que jusqu'à date, c'est juste un casse-tête. Donc commençons par cette fameuse Jennifer Pusateri, qui est la première qui va être interrogée par les policiers. Jennifer, c'est une connaissance d'Adnan qu'il connaît surtout par l'entremise de son ami Jay Wilds, et on va y revenir à Jay, vous allez voir, c'est un personnage très important dans cette histoire-ci. Elle et Jay sont très proches. Ils fument du weed ensemble, apparemment qu'ils en vendent aussi, donc ils ont un peu cette petite business là de vente de cannabis. Jen et Jay sont un peu plus vieux, donc ils ont des emplois, ils vont au collège, et ils ne sont pas dans le même cercle d'amis là, que Adnan et Hay, qui étudient à Woodlawn dans le programme Magnet. Donc eux, ils sont un peu plus vieux, ils font leur petite vie, souvent ça se résume à aller chiller dans l'appartement d'un et de l'autre, et à fumer de l'herbe, et lorsqu'on constate les relevés téléphoniques, on se rend compte que ces jeunes-là s'appellent constamment et débarquent chez eux constamment les uns chez les autres. Vous allez voir, Jay peut aller 3 fois chez Jen dans la même journée. Mais on se rappelle, c'était un peu comme ça quand on était ado aussi. Hein? Surtout quand on a notre première voiture, on habite chez nos parents, on se rend compte finalement, on a un ami qui, lui, n'habite plus chez ses parents, donc on est toujours rendu chez lui. Donc, c'est particulier, mais c'est ce qu'on se rend compte en étudiant un cas comme celui-ci, c'est que ces jeunes-là sont constamment vraiment en train de s'appeler et de se donner des rendez-vous un peu partout. Donc c'est un style de vie un petit peu différent, mais qui nous rappelle notre adolescence. Ceci dit, Jen va faire des déclarations troublantes aux autorités. Et là, rappelons-nous, on est 6 semaines plus tard, d'après la disparition de Hay. Et là, ce que Jen va dire aux policiers, c'est que elle leur confie avoir obtenu une confession de Jay. Donc Jay serait passé chez elle en après-midi, ce 13 janvier-là, avec un mystérieux téléphone cellulaire qui ne serait pas le sien, donc peut-être celui d'Annan. Et vers 15h45, Jay aurait reçu un appel sur ce téléphone-là et aurait quitté les lieux sur le champ. Plus tard en soirée, vers 20h, Jen aurait encore une fois reçu un appel de Jay et il lui aurait demandé de venir le chercher dans le stationnement d'un centre commercial. Ce qu'elle aurait fait. Et c'est là que, justement, il y aurait eu d'autres confessions. Jay aurait affirmé, dans ce parking-là de centre d'achat, vers 20h le soir, il aurait affirmé que plus tôt dans la journée, quand il a quitté, Annan lui aurait montré le corps de Hay dans un coffre de voiture. Mais apparemment que Jay n'aurait pas participé au meurtre, mais que ce serait Annan qui aurait tué Hay. Donc, c'est des grosses accusations. Et c'est Jen qui raconte ça aux policiers. Mais là, les policiers n'ont pas encore parlé à Jay ni à Annan. Ils ont vraiment contacté Jen parce que c'est un numéro qui revient très souvent dans la liste des appels du nouveau téléphone cellulaire de Annan. Après s'être confié ce soir-là dans la voiture de Jen, Jay demande à Jen de l'attendre quelques instants pour qu'il aille nettoyer des pelles qu'il aurait prêtées à Annan pour enterrer le corps dans les poubelles derrière le mail. Bon, c'est-à-dire que Jay, en fait, demande à Jen, hey, attends-moi quelques minutes, je m'en vais dans les poubelles derrière le mail et je vais nettoyer des pelles que j'aurais prêtées à Annan pour enterrer le corps. Donc, c'est des grosses confessions. Là. Jay explique à Jen qu'il est carrément lié à cette histoire-là, là, sans à être lui-même coupable du meurtre. Selon lui, selon Jay, il n'aurait rien à voir avec le meurtre. Il n'aurait qu'aperçu le corps de Hay dans le coffre de sa voiture, donc dans le coffre de sa propre voiture à Hay, c'est-à-dire une Nissan Sentra 1998. Donc, c'est des accusations là, très accablantes. En plus de ça, ni un ni l'autre, ni Jen, ni Jay, n'ira voir la police pour parler de ce crime-là. Donc, pendant 6 semaines, ces deux personnes-là savent apparemment ce qui s'est passé, mais il n'y en a aucun qui va contacter la police pour leur dire ce qui s'est passé. Et on sait qu'ils sont allés à une fête par la suite et ils ont fait mine de rien. On sait qu'ils ont eu plusieurs appels des policiers et ils ont fait mine de rien. Donc, c'est quand même assez louche tout ça. Là. Et là, par Jen, c'est là que les policiers vont tomber sur Jay parce que là, Jay a fait des confessions. Donc, il faut lui parler à ce fameux Jay Wilds. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce personnage-là. Donc, c'est là que les regards se tournent vers lui, étant donné sa confession. Il va devenir le témoin le plus important des enquêteurs, le Ritz et McGillivray. Le 28 février, il va donner sa première interview enregistrée à la police qu'il contacte. Ce qu'il va révéler le donne froid dans le dos et sera très incriminant pour Annan Sayend. Mais tout d'abord, parlons un peu de Jay. Jay, apparemment, c'est un être très spécial, si on peut dire. Plusieurs, à l'époque, le comparaient un peu à Dennis Rodman. Bon, c'est un étudiant excentrique, il est tatoué, il se colorait les cheveux, ce qui était plutôt rare à l'époque pour un jeune noir. Jay, c'est quelqu'un qui aimait la fête, qui travaillait aussi dans un club vidéo porno, donc malgré son jeune âge. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, qui n'était pas forcément une bonne fréquentation. Souvent, les parents des jeunes de l'école de Woodlawn, ils n'aimaient pas trop là, que leurs ados se tiennent avec Jay. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui, apparemment, qui était très bon en sport, puis qui était très divertissant. Mais dans le cas d'Annan, c'est pas un ami très proche. Là. C'est surtout quelqu'un avec qui il va fumer du weed en cachette. Là. On a un peu tous cette personne-là. Je sais pas si toi, Seb, tu connais quelqu'un comme ça, mais tu sais, quelqu'un qu'on va appeler quand on est dans le trouble, entre guillemets. Là. Quelqu'un qui a pas trop de problèmes à garder un secret, qui a déjà commis des petits délits, des choses comme ça. Donc, Jay, c'est un peu cette personne-là. T'sais, c'est pas ton meilleur ami, mais c'est quelqu'un que tu vas appeler quand tu as besoin d'aide sans trop vouloir d'aide officielle des autorités, mettons. Là. Puis Jay a un historique de petits délits et plus tard, là, on va voir, ça va même escalader là, en violence conjugale. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs rendez-vous avec la justice, si on peut le dire. Il est très différent de Hay et des autres amis d'Annan qui fréquentent l'école de Woodlawn. Toutefois, on se rappelle de Stéphanie qui a dansé avec Annan au bal, qui était la princesse du bal. Ben, Stéphanie, c'était la petite amie de Jay au moment des faits. Donc, ce qui fait en sorte que Jay et ses amis, qui étaient peu recommandables, étaient maintenant beaucoup plus proches d'Annan et des autres élèves. Ceci dit, Jay va décrire sa journée du 13 janvier, le jour de la disparition déposition de Hay aux enquêteurs comme suit. Et vous allez voir, le problème avec le témoignage de Jay, c'est qu'il va constamment changer d'une interview à l'autre, même des différentes apparitions qu'il va faire en procès. Donc, c'est dur de savoir quelle est la vraie vérité derrière ça. Mais je vais vous faire du moins ce que lui prétend qu'il s'est passé cette journée-là. Donc, à 10h45 le matin, Annan le contacte via son nouveau téléphone cellulaire, ce qui a été confirmé par les relevés d'appel. Annan lui propose de venir chez lui afin de lui prêter sa voiture pour qu'il aille acheter un cadeau à sa copine Stéphanie, dont c'est l'anniversaire ce jour-là. Parce que le jour de la disparition de Hay, c'était l'anniversaire de Stéphanie, la copine de Jay. Ouais. Donc, Annan et Stéphanie étaient très proches. Donc, c'est pour ça que Annan propose à Jay de lui laisser son téléphone cellulaire et de lui laisser sa voiture afin qu'il le rappelle plus tard pour passer le prendre, afin qu'il aille chercher un cadeau pour Stéphanie. Donc, c'est particulier quand même que Annan contacte Jay pour lui dire « Hey, c'est la fête de ta blonde aujourd'hui, il faudrait que tu y achètes un cadeau. Je te prête ma voiture puis mon téléphone. » Donc, ouais. c'est on dirait un peu un excès de générosité qui sera expliqué plus tard par Annan comme quoi ben, il était très proche de Stéphanie, donc c'était important pour lui qu'elle ait un cadeau d'anniversaire. Mais bon, à 11h45 ce matin-là, Annan a quitté l'école, il est maintenant chez Jay. Les deux se dirigent au centre commercial pour acheter un cadeau à Stéphanie, et sur place, Annan lui confesse qu'il souhaite tuer Haemin Lee ce jour-là. « I'm gonna kill that bitch », qu'il dirait apparemment à Jay, toujours selon les dires de Jay. À 12h30, Jay dépose Annan à l'école, il va le porter à l'école, et garde la voiture et le cellulaire de ce dernier. Il se dirige alors chez Jen pour passer le temps, il va y rester pendant 3 heures. À 15h40 maintenant, Jay affirme recevoir un appel d'Annan sur son cellulaire. Il le rejoint près de la rue Edmundston. Dans deux autres versions qu'il donne aux enquêteurs, Jay affirme que c'est au Best Buy qu'il a rejoint Annan ou encore chez sa grand-mère. C'est pas encore clair. Mais c'est dans ce parking qu'Annan l'attend près de la voiture de Hay, la fameuse Nissan Sentra 1998. Annan aurait ouvert le coffre de la voiture, il lui aurait montré le corps de Hay allongé un peu n'importe comment dans le coffre, là, un peu comme un pretzel qu'il a décrit au procès. Annan dit qu'il l'aurait étranglé dans ce parking. Le meurtre aurait donc lieu, selon Jay, à quelque part entre 12h30 et 15h40, là où il est allé porter Annan à l'école et là où il est allé rejoindre Annan dans le parking. Donc déjà, on a une idée de la chronologie. À 16h15, selon Jay, Annan aurait conduit la voiture de Hay alors que Jay conduisait celle d'Annan. Ils auraient été laissés la voiture de Hay près de l'autoroute I-70. Par la suite, ils auraient été fumés un joint dans un parc. Entre 16h30 et 17h, Jay aurait déposé Annan à sa pratique de course à l'école. Donc Annan faisait de l'athlétisme et là, il aurait déposé pour sa pratique, qui était en fin de journée. Mm-hmm. Vers 18h15, Jay va chercher Annan à sa pratique de course et les deux seraient passés chez une autre amie de Jay, une certaine Christy. Celle-ci affirme avoir vu Annan et Jay ce soir-là. Elle ne connaissait pas Annan du tout, mais elle affirme qu'elle le trouvait vraiment bizarre. Il ne disait rien, il restait dans le coin de la pièce et à un certain moment, il aurait même demandé comment on peut se débarrasser d'un eye, car il serait trop défoncé par le joint qu'ils ont fumé auparavant. Donc une drôle d'impression qu'il a laissé à Christy, Annan, cette soirée-là. Vers 19h-19h30 environ, selon Jay et Annan vont au McDonald's. Et c'est là qu'Annan aurait reçu l'appel des policiers après que le frère de Hay ait trouvé son numéro dans le journal de cette dernière. On se rappelle de ça. Par la suite, les heures sont floues, mais les deux complices seraient passés chez Jay chercher des pelles et des outils et se seraient dirigés vers Leakin Park où ils auraient enterré le corps de Hay. Au départ, Jay affirme aux enquêteurs qu'il n'a rien fait, qu'il n'a qu'observé. Mais plus tard, il va affirmer qu'il a bel et bien aidé Annan à creuser la tombe de fortune dans laquelle Annan aurait jeté le corps de Hay. Mais Jay n'aurait pas touché au corps, il n'aurait pas transporté Hay jusqu'à son tombeau de fortune. Ils auraient ensuite caché la voiture de Hay dans un quartier résidentiel où elle y restera pendant 6 semaines. Par la suite, Jay contacte Jen, qui vient le chercher dans le parking du centre commercial, selon le témoignage de Jen, et c'est là où il ira nettoyer ses pelles et qu'il va se confesser. Il se rend par la suite chez sa copine Stéphanie pour lui donner son fameux cadeau d'anniversaire, mais il ne va pas rester avec elle parce qu'il va retourner chez Christy pour le reste de la soirée et rentrera chez lui vers les 23h. Donc, toute une journée pour Jay. Là. Cette histoire-là, est très abracadabrante là, et incroyable. Je dirais que c'est une journée vraiment un peu... C'est un peu du n'importe quoi, là. Il aurait rejoint Adnan qui lui aurait montré le corps. Il serait allé enterrer le corps. Mais entre-temps, il serait allé au McDo. Ils auraient acheté du weed. Il serait allé 2-3 fois chez Jen porter son cadeau de fête à sa copine. Mais il serait pas resté avec sa copine parce qu'il serait retourné fumer du weed par la suite chez Christy. Donc, tout ça est assez abracadabrant. Mais aux yeux des enquêteurs, c'est une confession qui vaut énormément, là. Qui est une confession qui est inespérée, mais qui leur donne beaucoup d'éléments pour aller interroger Adnan d'urgence, là. Et ouais. Bien que Jay ne soit pas un témoin très crédible, il va réussir un coup de maître que seul un complice peut réaliser, c'est-à-dire qu'il va amener les policiers sur les lieux où se trouve la voiture de Hay dans un quartier résidentiel de Baltimore. Donc, même si la version est peu crédible, puis qu'on se dit, voyons, Jay, t'as tout fait ça dans ta journée, là, c'est assez spécial comme journée, mais malgré tout, il va amener les policiers à la voiture de Hay. Donc, ça prouve sans aucun doute qu'il y a quelque chose à voir dans cette tragédie-là. Mais maintenant, les enquêteurs doivent faire corroborer ces faits avec la version d'Anand Syed. Et là, on va procéder à nos remerciements et à nos shout-outs Patreon. Tout d'abord, un gros merci à Julien G.
Merci à toi, The Lonely Shepherd.
Beaucoup d'amour à toi, Barbara B.
Beaucoup de love à Megan W.
On veut donner un gros high-five à Kim.
Et un autre high-five à Denis L.
Marianne P., merci à toi. On pense à toi à chaque fois qu'on enregistre un épisode.
Même chose pour toi, Samuel M.
Lydia L. P., shout-out à toi et beaucoup de respect.
Un shout-out à la mystérieuse Isabelle.
Christian P., on ne pourrait pas enregistrer ce podcast sans toi.
Un autre shout-out à Valérie Youm.
On veut envoyer beaucoup de kudos à Pascal L.
Un gros merci à toi, Fanny G.
Et pour terminer, on veut donner beaucoup de respect ainsi que plein de bisous à Didine.
Oh yeah! On reprend notre histoire. Anan, âgé de 17 ans au moment des faits, est arrêté chez lui le 28 février 1999 à 6h du matin pour meurtre prémédité, first degree murder, tout juste après que Jay ait conduit les policiers à la voiture de Aminley. Avouons-le, seul le tueur ou un complice peut connaître ce lieu précis où la voiture de la victime a été abandonnée. Toutefois, ça ne sera pas si simple. Anan nie tout. Il est extrêmement surpris de la situation et affirme n'avoir rien à voir avec le meurtre de son ex-copine. Il est amené au poste de police et est interrogé. Nous sommes 6 semaines après la mort de Hay, du moins de sa disparition. Donc, les souvenirs de cette journée sont flous, comme on vous disait pour Adnan. Il va tout de même tenter de fournir une chronologie des événements. À 7h45, il assiste à un cours de photographie à l'école. À 9h15, il assiste à son cours d'anglais. À 10h45, il appelle Jay pour lui offrir sa voiture et son téléphone, comme Emile nous disait tantôt, dans le but qu'il aille acheter un cadeau d'anniversaire à Stéphanie, dont c'est l'anniversaire ce jour-là. Entre 11h15 et 12h50, les étudiants ont une heure de lunch et une période libre, donc il se fait redéposer à l'école par Jay vers 11h30. 13h27, Anan arrive presque 45 minutes en retard à son cours de psychologie, ce qui est aussi confirmé par une note dans le cahier de son professeur. À 14h15, c'est la fin des classes. C'est fou comment ça se termine de bonne heure, hein, l'école.
Ouais, mais ils commencent tôt, hein, 7h45, oui. Ils ont un cours.
Ouais, t'as raison. Anan affirme se rendre à la bibliothèque pour prendre ses emails et attendre sa pratique de course, on vous disait qu'il faisait de l'athlétisme, qui débute vers 15h30. Entre 16h30 et 17h, Jay vient reprendre Anan à sa pratique d'athlétisme et il se dirige vers chez Christy, qui confirme en effet que Anan y était, mais qu'il avait un air bizarre. C'est là qu'il, selon lui, il reçoit l'appel de la police. Dans la version de Jay, ils sont au McDonald's.
Oui, parce que, bon, on se rappelle, les policiers appellent Adnan à un certain moment, mais c'est pas clair où est-ce qu'Adnan était là, quand il a reçu cet appel-là. Dans sa version, lui, il était chez Christy, où il avait l'air bizarre, mais dans la version de Jay, ils sont au McDo, donc à préciser.
Ouais. Entre 19h et 20h, il va acheter de la nourriture qu'il amène à son père à la mosquée. Son père va aussi témoigner que Adnan était présent à la prière du soir, mais ne peut confirmer à quelle heure. La prière, plus tard, était à 22h30 ce soir-là. On voit alors que Anan n'a pas eu la même journée que Jay, bien que certains éléments concordent.
C'est alors clair que ce sera sa parole contre celle de Jay. Hein. Toutefois, Anna n'aurait un mobile, celui du petit copain qui est frustré de voir son amoureuse partir avec un autre. Mais est-ce que c'est suffisant pour tuer quelqu'un? Car rappelons-nous que Anna n'a toujours collaboré avec la police et n'a jamais montré aucun signe de résistance. Et un autre élément qui ne joue pas en sa faveur, c'est qu'une amie de E, qui était avec elle ce fameux jour de janvier, aurait été témoin d'Anna demandant à E de l'amener chez lui en voiture et lui aurait demandé un lift. Donc, non seulement Anna n'aurait un mobile, mais en plus, il y aurait une tactique pour entrer dans la voiture de...
Ouais.
Le procès s'annonce donc très intense, hein, car toute la communauté musulmane autour de la famille d'Annan est mobilisée. Et en même temps, tous les élèves de Woodlawn sont sous le choc. On les comprend, là. Comment un des élèves les plus prometteurs et les plus populaires de l'école aurait pu tourner aussi mal et devenir un meurtrier? Ils devront aussi déterminer s'il est possible pour Annan d'avoir commis ce meurtre dans un très court délai, soit entre 14h15, lorsque l'école se termine, et 14h36. L'heure où les enquêteurs estiment que Kanan a recontacté Jay pour qu'il vienne le chercher au Best Buy. Donc, on suppose que A a été tué entre 14h15 et 14h36, ce qui laisse 21 minutes à Kanan pour conduire de l'école jusqu'au Best Buy et assassiner A, ce qui représente très peu de temps, là. Un peu comme tu disais tantôt, là, mais on va y revenir un peu plus tard.
Oui, puis en cet appel-là là, de 14h36, il est inconsistant avec les témoignages de Jay et Jen. Donc, selon leur, leur témoignage à eux, c'est plus tard que Anna aurait rappelé. Donc, encore une fois, c'est mystérieux tout ça, là, cet appel-là. Là. On va parler un peu du procès maintenant parce que tout ça fait déboucher un procès. Hein. Le témoignage de Jay est assez accablant envers Anna. Et puis là, la situation ne se regarde pas très belle pour lui. Là. Son procès à Anna Sayed s'amorce le 8 décembre 1999, près d'un an après la mort de Hay. Anna est incarcéré depuis son arrestation. Il n'est toujours pas retourné à la maison. Il y a eu aussi beaucoup de déboires avec la présence d'un avocat. Donc, la famille aurait engagé un avocat. Par contre, Anan, ne sachant pas que l'avocat existe, ne l'aurait jamais demandé. Et en raison de cela, l'avocat n'aurait jamais pu rentrer dans le building. Donc, il y a eu quelques petits accros là, au niveau de la logistique de la procédure légale. Mais bref, Anan n'est toujours pas retourné chez lui. Il est incarcéré depuis son arrestation. Toutefois, fait intéressant, Jay, qui est à quelque part complice dans cette histoire, hein, aura sa rencontre avec la justice en septembre, soit 3 mois avant le procès d'Annan. Et Jay, lui, va signer une entente secrète avec les autorités pour complicité après les faits, donc accessory after the fact. Il écopera de 5 ans de prison. Mais comment peut-on conclure une entente avec lui pour complicité alors que le procès pour meurtre du principal intéressé n'a pas encore eu lieu? T'sais, c'est un peu drôle, ça, tu sais. Parce que là, je veux dire, Jay, c'est comme si le cas de Anan était réglé avant même qu'il y ait eu un procès parce que Jay a été reconnu complice. Donc, c'est particulier, cette chronologie-là. Là.
Vraiment.
Donc, vous verrez, là, le scénario des procureurs est pavé de trous là, puis, et de questions que personne ne peut répondre jusqu'à date. Là. C'est assez particulier. Anan aura pour avocate Christina Gutierrez, qui est une routière de la défense qui a une très bonne réputation dans le Maryland. C'est entre autres une pionnière dans le monde de l'ADN et même des preuves de téléphoniques, des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a pavé la route de certaines méthodes. Toutefois, ce procès sera difficile pour elle, là, qui a des problèmes de santé assez sérieux. Là. Le seul témoin des procureurs est Jay, qui est le seul qui fournira la chronologie des événements. Anand, lui, ne témoignera pas lors de son procès. C'est un choix déchirant que son équipe va faire dans le but de ne pas subir de contre-interrogatoire. Donc, on n'entendra jamais sa version officielle lors du procès. Ce qui va lui nuire, potentiellement, peut-être l'aider, mais bon, tout ça est à discuter. Malgré que ce choix peut paraître incriminant, il est tout à fait normal. Puisque Anand ne se rappelle pas trop de sa journée du 13 janvier, il peut être assez facile pour le procureur de le rendre confus afin qu'il se perde dans son histoire. Donc, c'est pas un bon témoin pour sa propre défense, en fait. Parce que, tu sais, en fait, on a les relevés d'appels cellulaires qui, eux, sont assez précis, mais en même temps, Anand, même Jay, ils savent pas trop. Là, est-ce que c'est 3h30, 3h40 ou encore 16h40? C'est difficile de se rappeler exactement des heures de cette journée-là. Là. Par contre, Anan, si j'ai un argument à dire contre lui, c'est que même s'il dit c'est une journée complètement normale à l'école, ben c'est pas une journée normale tant que ça, parce que tu t'es fait appeler par la police le soir parce que ton ex-copine est disparue. Donc, généralement, quand t'as un contact avec la police cette journée-là, t'as tendance à dire, OK, les policiers me contactent, je vais tenter de me rappeler le plus possible de ce que j'ai fait cette journée-là, tu sais. Mais Anan demeure dans le flou quand même, là, ce qui est un peu un peu étrange de ce côté-là.
Ah, c'est vrai.
Toutefois, au niveau des preuves, on apprend pendant le procès qu'il n'y a aucune trace d'ADN, ni même aucune preuve physique qui lie Annan au meurtre. On se rappelle que Annan a conduit la voiture de Hay au moins 3 fois ce jour-là. Hein. Il a montré dans le parking du Best Buy à Jay, il a montré le corps de Hay dans la voiture. Par la suite, ils sont partis, ils ont laissé la voiture près de l'autoroute, ils sont repartis par la suite à Lincoln Park, et par la suite, ils sont retournés domper la voiture dans un quartier résidentiel. Donc, malgré tout, ils ont trouvé aucune empreinte, aucune trace d'ADN dans la voiture de Hay provenant d'Annan, ce qui est assez étrange selon moi. Les outils ayant servi à enterrer Hay maintenant, on se rappelle, Jay serait allé chercher des pelles chez lui et d'autres outils. Ils n'ont pas été retrouvés, ces outils-là. Il n'y a pas d'autres preuves liées à ça. On n'a pas d'armes du crime d'une certaine façon. Donc, tout repose pour les procureurs sur le scénario présenté par Jay. Mais n'oublions pas, ce dernier savait où se trouvait la voiture de Hay. Donc, c'est comme l'élément qui fait en sorte que Jay reste crédible pour les procureurs. Mm-hmm. Pendant tout le long du procès, Gutierrez, l'avocate d'Annan, va cuisiner Jay là, sans relâche. Elle va le challenger constamment sur les différentes versions de son histoire qui ont changé plusieurs fois d'un interrogatoire à l'autre. Donc, d'une fois que en début de l'interrogatoire, Jay prétendait, par exemple, qu'il est resté tant de temps chez Jen, ou encore que, justement, Annan lui a montré le corps de Hay dans le parking du Best Buy versus sur la rue Edmundston, et un peu plus tard, c'est en face de chez sa grand-mère. Donc, Jay aurait menti aux policiers. Donc, c'est vraiment là-dessus que Christina Gutierrez va jouer sur la crédibilité de Jay. Donc, elle va sans cesse, là, elle va pointer les trous dans sa chronologie des faits. Ouais. À un certain moment, il aurait enterré en début de soirée vers 19h30 avec Annan, alors qu'à un autre moment, il l'aurait fait après minuit. Là, c'est assez spécial. Là. Puis à un autre moment, il affirme qu'Annan lui a montré le corps de Hay dans le parking du Best Buy, comme je disais. Et à un autre moment, c'est devant la maison de sa grand-mère. Donc, c'est des détails qui sont hyper importants, mais qui ne sont pas clairs pour tous et qui ne sont même pas clairs pour Jay, en fait.
Non, c'est ça, exact.
Jay va même avouer au procès que Annan lui aurait demandé de l'aider en évoquant une menace, là, comme quoi il allait tout révéler aux policiers à propos de la vente de marijuana qu'il faisait. Et c'est pour ça que Jay aurait accepté d'aider Annan. Et là, vous allez me dire, oui, mais complicité de meurtre versus vente du weed, c'est pas la même gravité. Hein? Toutefois, Jay, lui, là-dessus, ce qu'il explique, c'est que, ben en fait, à ce moment-là, le cannabis était assez illégal dans la région de Baltimore. Puis, c'est pas une communauté qui... les amis de Jay puis la gang de Jay, c'est pas des gens qui sont très collaborateurs avec les policiers. Hein? C'est des gens qui ont plutôt tendance à fuir les policiers, puis ils veulent de moins en moins être impliqués dans des histoires comme ça. Donc, c'est un peu ce que Jay, par la suite, raconte. C'est qu'au départ, il était pas très collaborateur avec les policiers. Donc, il disait des choses, mais, par exemple, il avait pas évoqué le fait qu'il était allé chez sa grand-mère parce qu'il avait pas envie que les policiers aient questionné sa grand-mère là-dessus puis qu'il implique sa grand-mère là-dessus, tu sais. Ouais. Mais une fois rendu au procès, ben là, maintenant que les choses sont sues, ben c'est là qu'il a parlé du fait que c'est devant la maison de sa grand-mère que Annan lui aurait montré le corps de Hay. Donc, c'est pour ça un peu que son témoignage change, mais ça fait en sorte que ça lui ajoute pas tellement de crédibilité, du moins. Les relevés d'appels cellulaires vont aussi être analysés là, au peigne fin, ainsi que la position des tours cellulaires aussi. À l'époque, ce type de preuve amenée en cours est assez nouveau. Faut savoir aussi que les tours cellulaires ne sont pas 100% fiables. Hein. Elles peuvent donner là, une idée de lieu, mais sans plus. Puis aussi une différence entre les appels entrants et les appels sortants. C'est pas tous les appels qui sont fiables et qui sont des preuves de position géospatiale de quelqu'un. Là. Du moins, pas à cette époque. Le procureur va baser presque toutes ses assumptions autour des appels entrants. Cela aura pour effet de confondre toute la chronologie des événements entièrement basée sur la version de Jay. À certains moments, les éléments concordent, les appels à partir de l'école, par exemple, sont cohérents. Les appels aussi vont être placés... Il y a certains appels qui sont placés qui pointent à Nan à Lincoln Park, l'endroit où Hay a été enterré, et il y en a certains que ça marche bien, certains que ça marche moins bien. Là. Mais c'est jamais tout à fait au même moment où Jay ou même Jen l'ont expliqué. Donc, c'est quand même assez mystérieux. De plus, les interrogatoires de Jay menés par la police sont très discutables, parce qu'à de multiples reprises, puis ça, on peut l'entendre dans Serial, puis on peut l'entendre même sur YouTube, on entend les policiers tapoter sur la table quand Jay n'est pas sûr de lui. Là.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas si vous entendez. Mais oui. Tu sais, par exemple, on va dire à Jay, où étais-tu à telle heure? Là, Jay est un petit peu confus et tout ça. Puis là, les policiers vont pointer on a l'impression, une note sur une carte ou quelque chose. Puis là, tout d'un coup, Jay retrouve miraculeusement la mémoire. Donc, tout ça est très louche. Il y a aussi eu un écart de 3 heures, là, entre 2 interviews qu'ils ont enregistrées avec Jay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures-là? C'est une bonne question. Mais revenons au relevé d'appel téléphonique. Il y a un appel survenu dans l'après-midi qui est très incriminant pour Adnan. Il s'agit d'un appel passé à son ami Nisha, ce qui sera plus tard baptisé le Nisha Call par l'équipe de Serial, qui est un genre de coup de théâtre mystérieux que personne n'a pu expliquer, ni même Nisha. Donc cet appel-là a été logé à 15h32. Ça proviendrait du téléphone cellulaire d'Adnan vers le téléphone de Nisha et ça aurait duré 2 minutes 22. Donc c'est quand même un long appel. Selon la version d'Adnan, Jay aurait eu son cellulaire toute la journée, incluant à cette heure-là. Donc, c'est certainement pas Adnan qui l'aurait appelé. Toutefois, et là, c'est là qu'on trouve le smoking gun, c'est que Jay ne connaît pas Nisha. Donc, selon la chronologie des événements, tous les appels qui sont logés pendant que Jay n'est pas avec Adnan, c'est des appels de Jay envers ses propres amis, pas envers les amis d'Adnan. Exact. Et là, cet appel-là aurait été logé vers Nisha et aurait duré 2 minutes 22. Donc, ça fait pas de sens que Jay l'ait appelé sans Adnan. Ce call-là peut juste venir d'Adnan. En plus, cette heure serait dans la fenêtre même du meurtre, dans le fameux 21 minutes. Donc, au procès, Nisha va témoigner et expliquer qu'elle avait reçu un appel d'Adnan et qu'il aurait même passé le téléphone à Jay pendant l'appel qui lui aurait parlé. Il s'agirait de la seule fois où elle aurait parlé à Jay là, de sa vie. Elle affirme que, selon elle, les deux jeunes hommes étaient au club vidéo porno où Jay travaillait à l'époque. Mais en vérifiant plus amplement, il semblerait que Jay n'a pas commencé à travailler à ce club vidéo-là avant la fin janvier, donc plusieurs semaines après le meurtre. Donc, encore une fois, la mémoire est une faculté qui oublie, hein. Donc, on n'a jamais pu établir la vérité au sujet de cet appel-là. Toutefois, les données, elles, ne mentent pas et cet appel aurait duré 2 minutes 22 et aurait été localisé près de Leakin Park. Donc, c'est un peu incriminant pour Adnan. Adnan lui prétend qu'il s'agit sans doute d'un pocket call, là, un appel quand le téléphone est dans nos poches, qui serait tombé sur une boîte vocale. Mais Nisha a affirmé ne pas avoir de boîte vocale, donc encore une fois, ça aide pas, tu sais. Puis 2 minutes 22, c'est long un peu pour un appel sur une boîte vocale. Généralement, après 30 secondes, ça coupe ou c'est fini, là. Exact. Bref, personne, ni même Nisha, ne peut vraiment expliquer cet appel qui ferait toute la différence dans la chronologie et qui pourrait incriminer ou pas Adnan Syed. Donc, un détail important dont on n'aura jamais la réponse. Donc, pour résumer du côté de la poursuite, on a un seul témoin dont la crédibilité est très douteuse, une chronologie des événements qui ne concorde pas avec le relevé des appels cellulaires à 100% et qui n'est pas 100% aligné avec les tours cellulaires non plus. Donc, ils ont ni empreinte digitale, ni ADN d'Adnan sur les pièces à conviction. Selon eux, il n'y a aucun doute qu'Adnan est coupable, en raison du témoignage de Jay, bien évidemment, et du mobile d'Adnan, qui était l'ex-petite amie la victime. Donc, on va plaider la fatal attraction, là, le petit ami frustré. Donc, après un procès de 6 semaines où Adnan va garder le silence tout au long, le jury rend son verdict. Après 6 heures de délibération, Adnan est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, de kidnapping, de séquestration et de vol. Il sera condamné à la prison à vie plus 30 ans. Notez bien qu'il y aura aussi un deuxième procès et là, vous écouterez Serial parce qu'il y a eu une petite erreur de procédure dans le premier et puis c'est au terme de ce second procès-là que le verdict sera prononcé. Donc, dans le premier procès, apparemment qu'il y a quelque chose que le jury a entendu Christina Gutierrez s'exprimer à propos de quelque chose et le jury n'aurait pas dû entendre ça. Donc, il a fallu qu'ils arrêtent le procès et qu'ils réengagent un autre jury, qu'ils repassent des auditions pour retrouver des jurés et puis... Toutefois, ça aurait pu avoir une différence, ce procès-là, sur le sort d'Adnan, mais on ne le saura jamais. Ceci dit, c'est là que Adnan va être condamné prison à vie plus 30 ans. Donc, c'est un gros verdict pour un meurtre prémédité.
Tu ne sors jamais de prison. Hein? Tu vas mourir en prison, en fait.
Oui, et tout ça, c'est surtout sur le fait que Jay connaissait le lieu où la voiture de A était situé.
Oui, exact. Il y a tellement d'incohérences. Je comprends pas comment tout ça a pu en arriver là. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Le cas est donc rapidement classé. Et aux yeux du grand public, il ne s'agit que d'un cas d'attraction fatale, comme tu disais tantôt, où un ex-copain frustré s'attaque à son ex-copine. Les années passent et Adnan est toujours incarcéré. Il tentera quelques appels en justice qui n'aboutissent pas. Son avocate, Madame Gutiérrez, va décéder en 2004 en raison de problèmes de santé. Mais une avocate et une proche de la famille de Saïd, Rabia Chaudhry, va s'intéresser sérieusement au cas d'Adnan et surtout au principe du doute raisonnable. Car selon elle, les preuves sont beaucoup trop minces pour le faire condamner. Il y a même apparence de complot entre les policiers et Jay, qui a signé une mystérieuse entente avec eux.
Oui, cette entente-là, on n'en aura jamais les détails.
Non, hein? Puis c'est, je serais tellement curieux de la lire. Au fil des années, Rabia va entrer en contact avec Sarah Koenig, qui est une journaliste pour le podcast This American Life. Sarah adore les histoires d'enquête et elle a déjà couvert l'actualité de Baltimore. Elle est actuellement à la recherche d'une histoire assez riche pour produire un spin-off pour This American Life. Elle sera tout de suite attirée par l'enthousiasme de Rabia, mais aussi par toute l'ambiguïté qui réside au sein de cette histoire-là. Le spin-off en question deviendra Serial, qui verra le jour en octobre 2014. En quelques semaines, le podcast qui sort un nouvel épisode chaque semaine deviendra viral et connaîtra un succès monstre. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, là, c'était assez fou. Là. En 2018, on estimait que le nombre de téléchargements de Serial était à 348 millions. Dans Serial, c'est vraiment beaucoup. Là. Dans Serial, Sarah tente d'aller au fond de l'histoire et de comprendre ce qui s'est réellement passé le 13 janvier 1999. Elle va établir un climat de dialogue avec Adnan en prison et les deux vont se parler très souvent. Sarah va tenter d'éclaircir certains points, dont la chronologie des événements, le fameux deal avec Jay et l'appel aussi à Nisha qui a été logée dans l'après-midi. Malgré le fait que le podcast remet la lumière sur cette vieille histoire de Baltimore, cela ne fait pas plaisir à tout le monde, hein, de déterrer des histoires comme ça. Là. Plusieurs personnes, dont Jay, ont refait leur vie, évidemment, et maintenant ils se retrouvent au centre d'un phénomène culturel mondial. Jay va réentendre ses déclarations à la police, des extraits du procès vont être diffusés dans le podcast, et les élèves de Woodland seront replongés, en fait, dans cette histoire qui les avait vraiment déchirés à l'époque. Avec les effets que Serial auront sur la culture Internet, des milliers d'internautes vont se ruer sur Reddit afin de partager leurs théories et l'histoire obtiendra une visibilité internationale. Puis même encore aujourd'hui, juste pour vous dire, sur Reddit, ça se discute encore amplement.
Oui, même pour cet épisode, moi, j'ai pas le choix de retourner poser quelques questions aux Redditeurs là, pour avoir quelques détails sur la chronologie.
Oh, excellent ça. Ce que Serial a amené comme nouveauté au cas concrètement, c'est surtout le témoignage d'une certaine Asia McLean, une amie d'Adnan, qui est certaine de l'avoir vue à la bibliothèque en après-midi le jour du 13 janvier, lors de la disparition de A. Ce témoignage est assez particulier. Écoutez bien ça. Asia McLean affirme avoir vu Adnan Saïd à la bibliothèque vers 15h30, ce qui est exactement le moment du meurtre. Et exactement au moment où Adnan affirme qu'il était à la bibliothèque. Toutefois, malgré ce témoignage, aucun avocat de la défense va contacter Asia pour la faire témoigner. Celle-ci va même écrire à Adnan en prison pour témoigner de la conversation qu'ils ont eue ensemble à la bibliothèque à cette époque-là. Asia va signer un nouvel affidavit et le nouvel avocat d'Adnan, Justin Brown, lui va réussir à lui octroyer un appel spécial pour défense inefficace de la part de son ex-avocat, Madame Gutiérrez, qui n'a pas prononcer cet alibi au premier procès. Certains vont dire que cette décision était peut-être stratégique et qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un oubli. Mais on dirait que là-dessus, j'étais un peu déchiré. Là.
Ouais, c'est parce que après, si tu sais, lorsqu'on est si Asia McLean, on est toujours dans des souvenirs, hein, puis on est jamais dans des preuves concrètes. Tu sais, Jay, même si sa timeline est pleine de trous, il a quand même amené les policiers à la voiture. Tandis que Asia McLean, c'est simple pour elle, tu sais, la pauvre dit peut-être qu'elle dit la vérité, là. Mais par la suite, c'est facile pour un avocat procureur en contre-interrogatoire de mettre plein de trous dans sa version, puis de peut-être s'arranger pour faire décaler ce témoignage-là au lendemain ou la veille ou quelque chose mm-hmm. comme ça, tu sais. C'est juste un témoignage de souvenir, donc c'est pour ça qu'on saura jamais si Mme Gutiérrez, c'est par oubli, en fait, qu'elle n'a pas contacté Asia, ou au contraire, si c'était stratégique, dans le sens que ça n'amenait pas une preuve assez solide de l'innocence.
Mm-hmm. Ouais, mais quand même, mais bref, on le saura jamais. Le 6 novembre 2015, Annan obtient une nouvelle audience et Asia McLean témoigne avoir vu Annan à la bibliothèque cet après-midi-là. La nouvelle est couverte par tous les grands médias du monde. Sarah Koenig, l'animatrice de Serial, est d'ailleurs dans la salle et elle publiera des mises à jour du podcast de son hôtel le soir venu. Entre-temps, son avocat, Justin Brown, remettra en question les données des taux cellulaires à l'aide d'un nouvel expert et fera une demande pour, encore une fois, pour un nouveau procès. Dans sa demande, Justin Brown stipule qu'encore une fois, l'ex-avocate d'Annan a failli à sa tâche en ne questionnant pas l'expert que l'État a présenté au procès, l'expert des taux cellulaires.
Oui, donc c'est vraiment Justin Brown, il essaie d'amener une motion dans le but de prouver que Annan n'a pas eu une défense juste et équitable, que son ex-avocate a failli à sa tâche. Donc même si Annan, encore aujourd'hui, a beaucoup de respect pour Mme Gutiérrez puis ne regrette pas de l'avoir engagée et tout ça, ben selon son avocat actuel, elle a failli à son devoir en ne contactant pas Asia McLean, en faisant différents trucs et entre-temps aussi l'expertise l'expertise au sujet des données cellulaires, des tours cellulaires s'est grandement améliorée depuis 1999. Donc
ben oui,
c'est là que Justin Brown aussi va amener des nouveaux experts et puis va contredire d'une certaine façon la thèse de la couronne. Donc c'est quelque chose qui se joue justement un petit peu plus tard et qui aurait été moins possible d'une certaine façon sans Serial et tout l'intérêt médiatique qui a eu lieu autour de l'affaire 15 ans plus tard. Exact. Le 29 mars 2018 maintenant, la Cour d'appel du Maryland octroie à Annan le droit à un nouveau procès basé sur les nouveaux éléments amenés par son avocat. Mais il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que les choses se passent. Et Annan est toujours en prison depuis 1999.
Incroyable.
Un an plus tard, en mars 2019, donc quand même assez récemment, la Cour d'appel du Maryland renverse la décision précédente là, à 4-3 et n'octroie plus à Annan Syed le droit à un nouveau procès. Et là, c'est un gros coup de théâtre dans cette histoire-là. Ils affirment que oui, la défense d'Annan était déficiente, mais que toutefois, rien n'a été présenté et ne peut remettre en question la preuve extrêmement accablante contre Annan. Il doit donc demeurer en prison. Et là, c'est quand même gros ce truc-là, parce que jusqu'à date, il avait gagné ses combats. On n'a pas énuméré tous les appels que Annan a fait. Vous pouvez vous renseigner vous-même sur le web, mais en fait, c'est plusieurs étapes, et là, ils viennent de tout renverser ça. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et là, Justin Brown, il y a encore quelques ressources, mais là, il y en a de moins en moins. Là. Justin Brown présente donc son appel à la Cour suprême des États-Unis, qui, eux, refusent tout simplement d'entendre la cause, ne donnant aucune raison. Donc là, ça fait encore une fois diminuer les chances pour Annan. Donc eux, ils ont reçu la demande d'appel, mais ils ont même refusé de la regarder. T'sais, eux auraient le pouvoir de renverser la décision de la Cour d'appel du Maryland, mais ils n'ont pas fait en donnant aucune raison. Donc c'est là qu'on voit que au niveau de la justice, cette histoire-là est carrément classée. Il y a comme aucun mystère là, pour eux. Là.
Oui, pis ça me surprend toujours que ça soit si comme s'ils étaient juste tannés puis qu'ils pouvaient utiliser leur droit de veto pour tout simplement bloquer ça. Je me questionne toujours à savoir qu'est-ce qui fait que justement ils refusent tout simplement d'entendre la cause, la dernière étape. Il y a quelque chose d'étrange, même que je soulève un peu le racisme, on dirait, étant donné qu'Annan est musulman. Je me demande si ça peut pas avoir eu un impact sur ça, là, sur toutes les décisions qu'ils ont pu avoir sur lui. Là.
Ouais, je lisais un truc là-dessus sur l'aspect racial, parce qu'évidemment, faut dire que chose qu'on n'a pas dite, c'est que quand Annan subissait son procès ou ses différents procès, la salle était pleine de la communauté musulmane de Baltimore. Ouais. Il y a vraiment eu un énorme support. Là. Rabia Chaudhry, elle a levé des fonds. Ça a coûté très cher en défendant Annan, des centaines de milliers de dollars. Là. Et c'était vraiment la communauté musulmane, les gens de la mosquée qui finançaient ça, la famille d'Annan, tout ça. Donc c'était pas évident pour la défense. Mais l'aspect aspect raciste, c'est dur à dire parce que Adnan, à quelque part, c'est un Américain, hein. Oui, il est musulman mais c'est un Américain natif, puis c'est un Américain qui se comportait en Américain. Tu sais, il était pas du tout ostracisé, hein. Dans son école, à lui, c'était très multiculturel. Baltimore est une ville extrêmement multiculturelle. Et puis Adnan faisait ce que tout jeune Américain faisait, tu sais, même qu'il soit musulman ou pas. Donc, il fumait de l'herbe, il allait chez McDo, même s'il devait pas avoir le droit tant que ça, fréquenter les filles, tout ça. Donc c'est là qu'on pense que il y a peut-être pas tant que ça de racisme dans cette histoire-là, mais encore une fois, on saura jamais. C'est peut-être que ça a teinté effectivement les décisions. Mais il y a aussi peut-être le fait que peut-être qu'ils savent des choses que nous on sait pas, évidemment.
Ah oui, ça c'est
ça. Fait en sorte que pour eux, il y a aucun doute raisonnable comme quoi Adnan est coupable. Mais bref, la Cour suprême lui a refusé d'entendre sa cause basée sur ce que Justin Brown a proposé. Par contre, il y a d'autres façons. Il reste quand même un peu d'espoir pour la défense d'Adnan. Il s'agit que son avocat joue sur d'autres aspects qui ont peut-être pas été respectés ou qui se sont peut-être pas passés comme il faut. Et on n'est pas juriste en distorsion, je suis convaincu. Il y a des gens qui le sont. Il y a des gens qui sont calés en droit. Zofia, si tu nous entends et tu veux participer au débat, rejoins-nous. Nous, on n'est pas juristes, donc corrigez-nous si on se trompe. Mais entre autres, un point sur lequel Justin Brown veut jouer dans le futur, c'est sur le fait que Adnan avait 17 ans au moment des faits et selon lui, il n'y a pas eu de réelle chance d'appel, ce qu'un homme de 17 ans devrait avoir, étant donné qu'il est mineur. Donc selon lui, la justice ne s'est pas faite équitablement au moment de son procès. Donc c'est là-dessus qu'il va jouer, en fait, sur le fait qu'il ait 17 ans. Ce qu'on a appris aussi entre-temps, bon, avec Serial, avec d'autres podcasts qui ont été faits, Rabia, évidemment, a fait un super podcast aussi qui s'appelle Undisclosed, qui vraiment traite du sujet, mais d'un angle vraiment juridique. Serial est quand même très divertissant. Là. C'est de l'entertainment. Ça se mange comme une série Netflix. Undisclosed est un petit peu plus aride, mais plus lourd au niveau du droit criminel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, lancez-vous là-dedans. Rabia a aussi écrit un livre, hein, Adnan's Story, que j'ai lu aussi. Donc, il y a énormément de trucs qui ont été faits. Et puis, on a appris dans toute cette littérature-là qu'en 2018, Adnan a refusé un plaidoyer de culpabilité. Donc, on lui a proposé en 2018, ça faisait déjà là, plusieurs années, là, 19 ans qu'il était en prison, et on lui a proposé de plaider coupable en échange de 4 ans de prison supplémentaire, ce à quoi Adnan a refusé. Donc, lui, il dit « Je tiens à mon honneur, je suis innocent, donc je refuse ce plaidoyer de culpabilité et je continue de me battre pour mon innocence. » Donc, gros move quand même d'Adnan, encore une fois. Et on va parler tout à l'heure dans l'after show de la Alford plea. C'est quoi un plaidoyer d'Alford? Ça, c'est quelque chose auquel Adnan n'a pas eu droit. On va en parler dans l'after show tout à l'heure pour les abonnés Oui Monsieur sur Patreon. Pour conclure, en fait, quelques éléments, parce qu'on a fait un peu le tour de la chronologie. Et là, on va parler un peu de nos théories, tout ça. Mais qu'est-ce qui pourrait innocenter Adnan, en fait? Parce que là, la preuve est accablante. Il y a Jay qui explique que justement, lui, il a amené les policiers à la voiture. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Adnan soit innocent après tous ces témoignages-là? Bien, selon Rabia, en fait, qui elle continue de militer pour la cause d'Adnan, elle, ce qu'elle dit, c'est que la version de l'État a vraiment plusieurs trous, puis c'est vraiment en comparant les tours cellulaires qu'on pourrait se rendre compte, en comparant les données des tours cellulaires avec des vrais experts, qu'on pourrait, d'une certaine façon, déconstruire la théorie des procureurs. Mais ça fait pas plus d'Adnan un innocent, en fait. Ça fait plus remettre en cause la vraie chronologie des événements des procureurs. À part ça, bien évidemment, l'absence d'ADN d'Adnan et d'empreintes digitales, autant sur E que dans la voiture. Ça, quand même, c'est louche un peu. Il y a eu des prélèvements de faits sur E un peu partout, sur son corps, tout ça, et il n'y a rien qui a été trouvé, l'alliant à Adnan. Donc, je sais qu'on a retrouvé une empreinte digitale à un endroit aussi. Tu sais, lorsqu'on regarde dans une voiture, par exemple, c'est où les endroits où on regarde pour les empreintes digitales? C'est sur les miroirs, entre autres, parce que quand on entre dans une voiture qui n'est pas la nôtre, on a juste les miroirs. Donc, il y aurait trouvé des empreintes digitales de quelqu'un qui soit ni Adnan, ni Jay sur les miroirs. Donc, il y a quelque chose ici là, qui mériterait peut-être d'être exploré. Parce que, évidemment, c'est dur d'innocenter Adnan sans amener un autre coupable, tu sais.
Oui, exact. Puis
dans ce cas-ci, on n'en a pas une tonne de coupables. D'autres éléments parlant de coupables, c'est ce fameux Don, le petit ami de Hay au moment des faits. En fait, Don était irrejoignable cette journée-là, étrangement, jusqu'à 1h30 du matin. Donc, où était-il? Il devait travaillé chez LensCrafters. Il devait voir et dans l'après-midi, mais il a été irrejoignable. Donc, ça fait pas de lui un coupable, évidemment, mais ça fait de lui carrément quelqu'un de suspicieux. Puis encore plus étrange, lorsqu'on analyse ce que Don a fait cette journée-là, eh bien, apparemment que il était... lui, ce qu'il a stipulé, c'est qu'il était à l'emploi de LensCrafters, donc il travaillait cette journée-là. Toutefois, il y a personne qui semble avoir vu cette journée-là. Puis, en fait, sa feuille de temps a été remplie par son manager, et on s'est rendu compte que son manager, c'était sa mère.
Oui.
Ben oui, puis non seulement ça, mais vous savez, une grande entreprise comme LensCrafters, les employés ont des numéros d'employés, hein? Oui, employé oui. Numéro 5400 quelques. Et lorsque sa feuille de temps a été faite cette journée-là, il n'a pas utilisé son numéro d'employé habituel, c'était un autre numéro d'employé, comme si c'était un employé qui était arrivé avant lui, tu sais. Généralement, plus les numéros montent, plus ça veut dire que t'es arrivé tard, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, récemment, exactement. Tandis que là, c'était un autre numéro d'employé. Donc, est-ce que sa mère aurait falsifié sa feuille de temps? J'en ai aucune idée, mais il y a quelque chose de louche de ce côté-là. Et ça, c'est un détail que, justement, Rabia, avec son podcast Undisclosed, a révélé. Là, l'emploi du temps de Don cette journée-là. Donc, ça fait pas de lui un coupable, mais ça fait de lui quand même une personne d'intérêt. Mais malgré tout ça, il a été complètement écarté. Il y a aussi un autre aspect qui est la lividité, là, qui est un peu, lorsque quelqu'un meurt, en fait, pendant un certain temps, le sang, la gravité fait en sorte que le sang se concentre là où, justement, vers le bas, là où le corps est collé au sol. Donc, selon la lividité, selon les concentrations de sang sur le corps de E, elle aurait été vraiment à plat ventre, là, complètement à plat ventre pendant 10 à 12 heures au moins avant d'avoir été enterré. Mais par contre, quand Jay décrit ce qu'il a vu, le corps de E, eh bien, on se rend compte qu'il n'était pas à plat ventre, il était vraiment un peu disposé tout croche. Donc ça, encore une fois, ça concorderait pas, selon Rabia, de la lividité du corps. Et lorsqu'on a d'autres éléments qu'elle a ressortis, entre autres, la voiture de Hay, il n'y aurait eu aucune trace là, de terre provenant de Lincoln Park, oui. De buissons, ou de feuillage, ou de choses comme ça. La voiture n'aurait aucune trace là, liant à Lincoln Park. Donc quand même assez étrange.
Et quand ils sont allés faire l'arrestation d'Annan, puis qu'ils n'ont pas saisi sa maison, mais qu'ils ont fouillé sa maison, ils ont fouillé tous les bottes, les espadrilles, le linge, puis là non plus, ils ont trouvé aucune trace, pas de terre, pas de trace correspondante même de ses souliers ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme si Annan non plus n'avait jamais été à Leaking Park. Là.
Oui, exactement. Une autre preuve, ou du moins un autre élément qui remet en question un peu tout ça, c'est le gazon. En fait, la voiture de E, elle a été abandonnée par la suite dans un quartier résidentiel, là où Jay a amené les policiers. Elle était sur un genre de parking en gazon, mais apparemment que la couleur du gazon sous la voiture, qu'on peut voir en photo, était quand même encore assez vert. C'est-à-dire que la voiture n'aurait pas pu être localisée à cet endroit-là pendant 6 semaines, ce qui aurait fait jaunir le gazon en dessous de la voiture. Et lorsque les résidents de ce quartier-là ont été interviewés, eux, ils sont convaincus que non, cette voiture-là n'est pas restée 6 semaines dans le parking. Donc, encore une fois, il y a un petit quelque chose qui cloche là, de ce côté-là. Là.
Ah oui, exact. Le gazon, même la voisine, elle disait, une des voisines proches de là, elle disait qu'il ne laisse jamais une voiture comme ça aussi longtemps sans être remorqué. Même,
oui, exact.
Dans le stationnement.
Donc, c'est très louche tout ça. Là. Est-ce que quelqu'un doit être condamné à mort avec le témoignage d'une seule personne? C'est un peu la question, condamné à mort dans ce cas-ci, pas condamné à mort, mais condamné à prison. À vie,
ouais.
Presque, mais par le témoignage d'une seule personne, c'est un peu la question qu'on se pose. Où est-ce qu'il y aurait matière à avoir un doute raisonnable dans le cas de Adnan Syed? Parce que, encore une fois, le témoignage de Jake reste quand même mince malgré la preuve qu'on peut pas lui enlever qu'il savait où était la voiture. Donc, je sais pas, Seb, on a fait le tour de la chronologie, je pense qu'on a bien analysé cette journée-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Ben, moi, il y a un des aspects que je trouve qui a pas été beaucoup soulevé, ou du moins... l'appel anonyme qu'il a appelé au départ pour pointer son ancien petit copain à Nan. Puis selon le témoignage des autorités, c'était une voix asiatique. Puis on disait que moi, qui a fait l'appel anonyme, puis on dirait que le seul lien que je faisais, c'était son frère, le frère à May, qui avait peut-être appelé. Puis même, je sais pas pourquoi on a suspecté personne de sa famille. Tu sais, je me suis posé la question si il n'y avait pas eu des chicanes avec son son frère ou tu sais qui aurait pu amener à ce qu'ils veulent la tuer aussi. Peut-être que je vais loin là, mais on dirait que cette théorie-là, elle a jamais été parce que je trouve ça bizarre l'appel anonyme, c'est une voix asiatique. Là, je fais des liens, mais qui pointe vers Adnan. On dirait que cet aspect-là, parce qu'on sait toujours pas c'est qui. Hein, tu sais, c'est presque sûr que c'est pas Jay, mais on sait pas c'est qui. Puis on dirait que là-dessus, je me questionne si ça, parce que qui l'a tué puis pour quelle raison.
Oui, c'est clair. Mais à propos de l'appel anonyme, je sais que Jay avait été questionné là-dessus. Jay a été très peu loquace hein, par la suite. Sarah Koenig de Serial est allée lui parler, mais il a pas voulu lui donner une entrevue enregistrée, mais elle lui a quand même parlé. Puis lorsqu'elle en a parlé, Jay lui disait « J'en reviens pas que vous vous posez encore la question. » C'est clair que c'est Adnan qui l'a fait, il y a personne d'autre. Si Adnan est innocent, il y a rien que je puisse dire qui aille dans ce sens-là. Là. Je n'ai rien à voir avec l'innocence d'Adnan. Là. C'est un peu ce que Jay disait après coup.
Okay,
mais au niveau de l'appel anonyme, il y en a qui suspectent, Jay en fait suspecte quelqu'un de la communauté musulmane en fait. Mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. Oui. Mais cette voix asiatique-là, ben c'est quand même des Asiatiques en fait, les Pakistanais.
Oui, t'as raison,
t'as raison. Mais apparemment que peut-être qu'Adnan se serait confié à quelqu'un à la mosquée, quelque chose comme ça, tu sais, à un leader spirituel. Et c'est peut-être cette personne-là en fait qui, sous le poids de la culpabilité, aurait contacté les policiers. Mais ça reste, ça reste à confirmer. C'est effectivement un grand mystère, cet appel anonyme-là.
Sinon, on dirait que je me pose beaucoup. Je me demande tout le temps qui a intérêt à fermer une enquête comme ça, parce qu'on dirait que toutes les non-preuves d'ADN, toute la discordance entre plein de preuves, à part le fait que Jay savait où était la voiture, on dirait que je comprends pas tout ça, comment tout ça a pu amener à ça. Puis aussi le fait qu'on a écarté rapidement le Mr. S, là, le maintenance guy, là, Alonzo Sellers en fait son nom, que lui est retourné, qui a arrêté directement à cet endroit-là ou presque pour aller aux toilettes, donc pour aller uriner, c'est quand même étrange, surtout avec le passé qu'il y a. Je me pose la question si c'est pas juste tombé sur lui à un endroit par hasard, puis qu'elle a été sous son emprise. On dirait que c'est une des pistes que j'ai en tête, on dirait qu'il me vient en tête. Sinon, il y a Don, là, son ex-petit copain, qui lui aussi a été écarté rapidement, là, qui n'a pas beaucoup collaboré autant dans les documentaires que Serial ou quoi que ce soit. Là. Même, je disais sur lui, il a une maladie, il est invalide depuis l'âge de 23 ans. Il dit qu'il va mourir autour de la cinquantaine, puis il y a une famille et tout ça, il habite en Californie, mais on dirait que lui aussi, le témoignage de son alibi de sa mère, tu sais, il est suspect dans cette histoire-là aussi, là, tu sais, je me demande s'il vit pas avec, il doit vivre avec ça si c'est lui aussi, là, fait que c'est toute une histoire, hein, puis tu sais, je terminerai un peu mon opinion avec la résilience d'Annan, tu sais, parce que moi, honnêtement, je pense pas que c'est lui qui a tué. Et là, je suis convaincu que c'est pas lui, mais toute la résilience que tu dois avoir, puis je réfléchissais à ça hier, tu sais, quand t'es presque condamné, t'es condamné à vie, en fait, puis qu'il y a quand même des fortes chances que tu... Tu sais, il est rentré en prison à 17 ans, là, et que tu finisses ta vie en prison, tu dois quand même penser souvent au suicide. En tout cas, du moins, je me posais la question, comment, moi, tu sais, quel sens à ta vie que tu donnes après, tu sais, ça doit être extrêmement difficile. Là.
Mais apparemment que c'est vraiment un détenu exemplaire, là, que Adnan est très impliqué dans le... la cuisine de la prison, tout ça.
La communauté.
C'est ça. Puis justement, il se réfugie un peu dans sa religion où il trouve un peu de paix. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une grosse job de résilience à faire.
Puis toi, mon cher, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Ben écoute, moi, j'ai été un gros passionné de Serial, en fait. Puis justement, on voulait attendre, moi et Seb, qu'il y ait des développements, tu sais. Puis on voit qu'il y a eu des développements même jusqu'en 2019. Donc, c'est pour ça qu'on voulait attendre un peu pour voir vraiment les effets de Serial, les effets des autres podcasts, des autres contenus qui ont été faits autour de cette histoire-là, pour vraiment en parler, parce que c'est aussi ça, l'ère numérique, hein, c'est comment les produits numériques peuvent contribuer contribué ou pas à faire avancer un cas ou à faire débloquer un cas. Moi, j'ai pas le choix de penser qu'il est coupable, en fait, Anand.
Ah oui?
Moi, ce que, en fait, je trouve un peu... Ben, tu sais, première des choses, faut pas enlever le focus, hein, qu'il y a vraiment une victime là-dedans qui est Aimin Lee, puis qu'il y a une famille, puis que même sa famille à elle sont convaincus que c'est Anand, tu sais. Puis à chaque fois cette histoire-là est rebrassée, bien la famille trouve ça très, très difficile, tu sais. Et parfois, j'ai l'impression qu'on éclipse un peu notre sympathie pour et envers Anand. Mais elle, elle a été vraiment... c'est la vraie victime dans tout ça. Ouais, mais moi, on dirait que j'ai l'impression que Anand est vraiment coupable, mais en même temps, je crois pas toutes les versions de Jay. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'a pas la bonne timeline, là. J'ai l'impression que personne n'a la bonne chronologie, ni les procureurs, ni Jay, ni même Anand. Mais j'ai quand même l'impression qu'il l'a fait, tu sais, parce que j'ai tendance, je vais reprendre un peu une expression de Serial, c'est que si Anand l'a pas fait, c'est l'homme le plus malchanceux du monde. C'est-à-dire que le jour où il prête sa voiture et son cellulaire à son ami pour qu'il aille acheter un cadeau d'anniversaire à sa copine, ben son ami en profite pour tuer l'ex-copine du gars qui lui a prêté sa voiture et de comploter avec les policiers pour le faire condamner. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est on parle du rasoir d'Occam, là, je suis sûr que certains distordus qui vont nous sortir dans ce cas-ci. C'est particulier là que cette journée-là, parce que Jay est clairement impliqué. Tu sais, peut-être que Jay a tué Aimin Lee là, mais il est clairement impliqué. Lui, il y a aucun doute qui est impliqué. Donc comment tout ça peut arriver. Tu sais, je veux dire quel est l'avantage de Jay dans tout ça. Tu sais, quel est le mobile de Jay de monter les policiers contre Anand et tout ça. Donc on dirait que ça, j'arrive pas à le comprendre. Puis c'est souvent ce que lorsque les appels ont été refusés, c'est que même si Aja McLean affirme avoir vu Anand à la bibliothèque à 15h30, ça enlève pas le fait que Jay savait où était la voiture de la victime, tu sais, puis qu'il y a certains Jay savait exactement où le corps avait été enterré, des choses comme ça. Donc il y a des éléments qu'il savait que seul un complice peut savoir. Mais par la suite, moi je trouve qu'il y a quand même un gros doute raisonnable, c'est-à-dire que je suis surpris en fait que Anand ait été condamné après un témoignage comme ça qui est rempli de trous, là, qui est un peu un témoignage à fromage suisse, là, si on veut.
Oui.
Puis ça, j'en reviens pas qu'il a été condamné seulement avec ce témoignage-là, sans preuve, sans ADN, sans empreinte, sans autres témoins, tout ça. Ouais. Donc ça, c'est ce qui me bluffe beaucoup, là. Puis aussi le fait que ni Jay ni Jen ont appelé la police pendant 6 semaines.
Oui, ça, c'est bizarre.
Puis tu sais, parce qu'ils avaient peur de se faire pogner dans leur histoire de vente de weed. Mais tu sais, c'est beaucoup, là. Je suis surpris encore que même Jen n'ait pas eu de conséquences à ces actes-là. Donc,
c'est vrai, hein.
Donc, c'est un peu ce que j'en pense. Moi, j'ai l'impression qu'Anand est coupable, en fait. Je trouve que ça fait du sens, même à certains moments, Anand aurait été très contrôlant envers « Hey, bon, ça veut pas dire qu'il va la tuer, évidemment. » Bon, mais apparemment que il était pas toujours aussi romantique, là, tu sais, qu'il paraît, là. Donc, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment un doute raisonnable de son côté. Puis je suis surpris qu'il ait été... condamné là-dessus.
Mais... Ouais, non, c'est clair. Puis même, tu sais, pour Jay, là, pour le fait qu'il savait la position de la voiture et du corps, Rabia, elle, l'amie de la famille, là, elle a dit qu'il se l'est simplement fait dire par quelqu'un. Elle a l'impression qu'il s'est fait dire quelque chose, tu sais, qu'il se l'est fait dire, elle était où.
Ouais.
C'est un peu comme ça qu'il est devenu le complice. Puis l'autre raison qui me fait douter de sa culpabilité, c'est le fait justement qu'il a refusé le pli de le pli d'Alford, en fait, là, que tu parlais tout à l'heure.
Il a refusé un plaidoyer de culpabilité, en fait.
Il a refusé le plaidoyer de culpabilité, tu sais, en échange de 4 ans de prison. Quand t'es vraiment coupable, je me dis que tu sais, c'est un moindre mal, mais bon, on dirait que ça appuie pas sur grand-chose, mon argument, ouais. Mais on dirait que cet aspect-là me fait aussi douter qu'il soit coupable, le fait qu'il ait refusé ça. Là.
Ça se peut, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un homme d'honneur, hein, il voulait pas décevoir ses parents, il voulait pas décevoir sa communauté.
Ouais, ouais.
Là, après coup, en plus, tous ces gens-là ont mis des centaines de milliers de dollars pour sa défense. Hein. Puis là, il irait les décevoir encore en plaidant coupable. Donc, mais je comprends ton point. C'est sûr que maintenir son innocence aussi longtemps que ça, c'est c'est un peu ça montre que à quelque part t'es déterminé puis que tu crois en tes en ton propre témoignage, finalement.
Oui, exact.
Ben, toute une histoire, cher Seb. On vous invite, cher Distordu, à écouter l'After Show. En fait, si vous êtes un membre, oui, monsieur, sur notre page Patreon, patreon.com/distorsion, on va discuter de plein de choses. On va discuter de doutes raisonnables. On va discuter de la Alford Plea, du plaidoyer d'Alford, qui est une mécanique là, juridique que Annan aurait pu avoir droit. On discute de plein de trucs aussi. Une critique de Serial aussi, parce qu'on veut parler du côté un peu critique de ça et un petit peu plus en détail sur la série de HBO, là, The Case Against Adnan Syed. Donc, c'est plein de trucs qu'on se disait c'est important d'en parler, mais on a déjà un assez long épisode. Donc, on se revoit en after show. Sinon, eh bien, vous savez où nous trouver, hein, les Distordus, on est partout. On est sur Twitter, Distorsion Pod, partout ailleurs, Instagram, YouTube, Facebook, on est Distorsion Podcast, Untapped aussi si vous voulez partager vos trouvailles de bière. C'est là. On remercie tout le monde qui nous achète de la merch. N'oubliez pas que si vous commandez un masque de visage de distorsion sur notre boutique, au boutique.distorsionpodcast.com, tous les profits iront à SOS Violence Conjugale, donc à un organisme qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Et sinon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, mon cher Seb?
J'ai rien à ajouter, mon cher Émile. Mais toi, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous?
Bien sûr!
Si un jour un enquêteur vous demande ce que vous faisiez un soir il y a 6 semaines ou encore il y a 15 ans, répondez simplement que vous écoutiez Distorsion.
Le meilleur alibi.
Oh oui.